Chapitre 5. Gaspard Ruiz, qui tordait sans peine les barreaux de sa geôle, fut mené avec les autres prisonniers vers le lieu de son exécution sommaire. « Toute balle a sa destinée », dit le proverbe. Tout le mérite des proverbes tient dans la concision et le pittoresque de l'expression. Leur influence s'exerce par la surprise produite sur notre esprit. En d'autres termes, nous sommes frappés et convaincus par le choc. Ce qui nous surprend, c'est la forme, et non pas la substance. Les proverbes sont de l'art, et de l'art à bon marché. De façon générale, ils sont inexacts, quand ils n'énoncent pas de vulgaires platitudes telles que « mieux vaut un demi-pain que pas de pain du tout » ou « d'une heure ou une minute, on manque aussi bien le train ». Certains sont simplement imbéciles, tandis que d'autres sont immoraux. Celui-ci, sorti du cœur naïf du grand peuple russe, l'homme décharge la pièce, mais Dieu mène le boulet, paraît pieusement atroce, en contradiction amère avec la conception reçue d'un Dieu compatissant. Ce serait à coup sûr une occupation assez contradictoire pour le protecteur du pauvre, de l'innocent et du déshérité que de pousser le boulet vers le cœur d'un père de famille, par exemple. Gaspard Ruiz était sans enfant. Il n'était pas marié et n'avait jamais aimé. À peine avait-il parlé à une femme, en dehors de sa mère et de la vieille négresse de la ferme, dont la peau ridée était couleur de cendre et dont l'âge courbait en deux le corps émacié. Si les balles de fusil tirées à 15 pas étaient spécialement désignées pour le cœur de Gaspard Ruiz, elles faillirent toutes à leur destinée. L'une d'elles, pourtant, emporta un petit bout de son oreille, et une autre un fragment de chair de son épaule. Un soleil rouge et sans voile se couchait dans un océan de pourpre et plongeait son regard de feu sur l'énorme mur de la cordillère, digne témoin de cette extinction glorieuse. Il est inconcevable qu'il ait pu aussi contempler les hommes, fourmis acharnées à leurs absurdes et insignifiantes tâches de meurtre et de mort, pour des raisons assez mal comprises, en dehors même de leur ordinaire puérilité. Il éclairait pourtant le dos des tireurs et le visage des condamnés. D'aucuns étaient tombés à genoux, d'autres restaient debout, certains détournaient les yeux des canons levés des fusils. Tout droit, Gaspard Ruiz, le plus large de tous, laissait pendre sa grosse tête hirsute. Le soleil bas l'éblouissait un peu, et il se tenait déjà pour mort. Il tomba à la première décharge. Il tomba parce qu'il se croyait tué. Il s'affaissa lourdement sur le sol. La secousse le surprit. « Je ne suis pas mort, apparemment, » se dit-il, en entendant, au commandement, le peloton d'exécution recharger ses armes. Il resta allongé, les membres tout raides sous le poids de 2 corps affalés en croix au-dessus du sien. Lorsque les soldats eurent tiré une 3e salve dans le tas des cadavres animés d'ultimes soubresauts, le soleil disparut, et presque aussitôt la nuit tomba sur l'océan assombri et les côtes de la jeune République. Au-dessus de l'ombre des basses terres, les sommets neigeux de la cordillère restèrent longtemps empourprés de lumière. Les soldats s'assirent pour fumer avant de regagner le fort. Le sergent se promenait parmi les morts, une épée en main. C'était un homme bienveillant, et il guettait le moindre mouvement, le moindre spasme, avec l'intention clémente de plonger la pointe de sa lame dans le corps qui donnerait le plus léger signe de vie. Mais aucun des cadavres ne lui offrit l'occasion de réaliser son intention charitable. Pas un muscle ne bougeait, pas même un des muscles puissants de Gaspard Ruiz, qui, inondé du sang de ses voisins et faisant le mort, s'efforçait de paraître plus mort que les autres. Il était allongé, le visage contre terre. Le sergent le reconnut à sa stature, et, étant lui-même un très petit homme, regarda avec envie et mépris cette force abattue. Il avait toujours détesté ce soldat-là. Poussé par une obscure animosité, il fit une longue estafilade au cou de Gaspard Ruiz, avec la vague idée de s'assurer de la mort de l'Hercule, comme si un physique puissant eût pu mieux résister aux balles. Car le sergent ne doutait pas que Gaspard Ruiz n'eût eu le corps traversé en mains endroits. Puis il délaissa sa funèbre besogne pour s'éloigner bientôt avec ses hommes et laissa les cadavres aux soins des corbeaux et des vautours. Gaspard Ruiz avait retenu un cri en sentant le sabre qui lui avait paru trancher son cou. Quand vint le soir, il rejeta les morts dont le poids l'écrasait et se traîna par la plaine sur les pieds et les mains. Après avoir bu longuement, comme une bête blessée, dans un ruisseau boueux, il se releva et, titubant, la tête vide, partit au hasard comme un homme perdu sous les étoiles de la nuit claire. Une petite maison parut surgir du sol devant lui. Il tomba sur le seuil et frappa la porte du poing. On ne voyait pas la moindre lumière. Gaspard Ruiz aurait pu croire les habitants enfuis comme beaucoup de leurs voisins, sans les cris de colère qui répondirent à son appel. Dans son état d'affaiblissement et de fièvre, les éclats furieux lui firent l'effet d'une hallucination et d'un cauchemar affreux où se mêlaient sa condamnation inattendue, les tortures de la soif, les salves tirées à 15 pas et le coup qui lui tranchait la tête. « Ouvrez la porte » cria-t-il. « Ouvrez au nom de Dieu !» Une voix exaspérée lança de l'intérieur un « Entrez donc ! Entrez donc ! Cette maison vous appartient ! Tout le pays vous appartient ! Entrez et prenez-la » « Pour l'amour de Dieu !» soupirait Ruiz. « Est-ce que tout le pays n'appartient pas aux patriotes ?» poursuivait la voix derrière la porte. « N'êtes-vous pas patriote ?» Gaspard Ruiz n'en savait rien. « Je suis blessé !» fit-il machinalement. Tout se tut à l'intérieur. Renonçant à tout espoir d'accueil, Gaspard Ruiz resta couché sur le seuil de la porte. Il était parfaitement insoucieux de ce qui pouvait lui arriver. Toute sa conscience semblait s'être concentrée sur son cou, où il ressentait une vive douleur. Son indifférence à son sort était absolue. Le jour se levait quand il s'éveilla d'un sommeil fiévreux. La porte qu'il avait heurtée dans la nuit était grande ouverte, et une jeune fille penchée sur le seuil se tenait des deux bras au chambranle. Allongée sur le dos, Gaspard Ruiz la regardait. Elle avait des yeux très sombres dans un visage pâle. Ses cheveux d'ébène tombaient contre ses joues blanches. Ses lèvres étaient pleines et rouges. Derrière elle, il vit une autre tête à longs cheveux gris et un vieux visage maigre, avec une paire de mains anxieusement nouées sous le menton. Chapitre 6. Je connaissais ces gens-là de vue, disait en dînant le général Santierra à ses hôtes. Je veux dire les gens chez qui Gaspard Ruiz trouva un refuge. Le père était un vieil Espagnol, propriétaire ruiné par la Révolution. Domaine, maison de ville, argent, tout ce qu'il possédait ici-bas, avait été confisqué par proclamation, car c'était un ennemi féroce de notre indépendance. D'une haute situation de dignité et d'influence au conseil de vice-roi, il était tombé à une importance moindre que celle de ses esclaves, nègres libérés par notre glorieuse révolution. Il n'avait même pas les moyens de fuir le pays, comme l'avaient fait d'autres Espagnols. Peut-être ruiné, sans foyer et sans autre fardeau que celui de la vie que lui avait laissé la clémence du gouvernement provisoire, était-il simplement entré un beau jour sous ce toit crevé de vieilles tuiles. C'était un endroit désert, sans un chien aux environs. Mais si le toit avait des trous, les volets de bois étaient épais et toujours hermétiquement clos. Je passais souvent au pied de ce rancho misérable. J'allais presque tous les soirs du fort à la ville pour soupirer sous la fenêtre d'une dame que j'aimais. Quand on est jeune, vous comprenez? C'était une bonne patriote, je vous l'affirme. Caballeros, croyez-moi ou non, mais l'ardeur politique était telle à cette époque-là que je n'aurais pu céder au charme d'une royaliste. Des murmures de joyeuse incrédulité s'élevaient autour de la table, interrompant le général qui caressait gravement sa barbe. « Señores, protestait-il, à nos cœurs surmenés, une royaliste faisait l'effet d'un monstre. Je vous dis cela pour que vous ne me soupçonniez pas de la moindre tendresse envers la fille de ce vieux royaliste. Au surplus, je vous l'ai dit, mon cœur était engagé ailleurs. » Mais je ne pouvais m'empêcher de la remarquer dans les rares occasions où il se tenait sur le seuil de sa porte ouverte. Vous saurez que ce vieux royaliste était aussi fou qu'homme peut l'être. Ses malheurs politiques, sa déchéance totale et son irrémédiable ruine avaient dérangé son esprit. Pour témoigner son mépris de tout ce que pouvaient faire les patriotes, il affectait de rire de son emprisonnement, de la confiscation de ses terres, de l'incendie de ses maisons et de la misère à quoi ses femmes et lui étaient réduits. Cette habitude de rire lui était devenue si naturelle qu'il se mettait à ricaner et à pousser des cris dès qu'il voyait un étranger. C'était la forme de sa folie. Moi, naturellement, je méprisais son vacarme avec ce sentiment de supériorité que nous a inspiré, à nous, Américains, le succès de notre cause. Je crois qu'en réalité, je le méprisais comme vieux Castillan, espagnol né et royaliste. Ce n'était certainement pas là motif plausible de mépris, mais pendant des siècles, les Espagnols d'origine nous avaient accablés de leur dédain, nous autres, Américains, hommes aussi bien nés qu'eux, simplement parce que nous étions des créoles. On nous avait maintenus dans un état d'abaissement et fait sentir notre infériorité dans les relations sociales. Et maintenant, notre tour était venu. Nous pouvions, nous, les patriotes, faire état de sentiments semblables. Moi, jeune patriote, fils de patriote, je méprisais ce vieil Espagnol et passais sur ses injures, qui ne laissaient pourtant pas de me blesser. D'autres n'auraient peut-être pas montré pareille longanimité. Dès qu'il m'apercevait, et longtemps avant que je n'atteignisse la maison, il commençait par un grand cri. « Un patriote ! Encore un !» Le ton de ses divagations insultantes, mêlé d'éclats de rire, était parfois perçant, d'autres jours grave. C'était parfaitement fou, mais je croyais nécessaire à ma dignité de mettre mon cheval au pas sans même regarder la maison, comme si les clameurs injurieuses de cet homme avaient eu moins d'importance qu'un aboiement de roquet. Je passais avec une expression d'indifférence hautaine sur le visage. C'était très noble, évidemment, mais j'aurais mieux fait d'ouvrir l'œil. Un soldat en temps de guerre devrait se sentir toujours en service, surtout lorsqu'il s'agit d'une guerre révolutionnaire où l'ennemi n'est pas à notre porte, mais dans la maison même. En de tels moments, l'ardeur des convictions passionnées se transforme en haine, supprime chez bien des hommes toute contrainte d'honneur ou d'humanité et enlève à certaines femmes timidités et délicatesses. Celles-là, lorsqu'elles ont une fois dépouillé la retenue et la réserve de leur sexe, deviennent, par la vivacité de leur intelligence et la violence de leur impitoyable ressentiment, plus dangereuses que les géants armés de pied en cap. Le général haussait la voix. Sa grande main passait par deux fois sur sa barbe blanche avec un effet de placidité vénérable. « Si, señores. Les femmes savent s'élever à une hauteur de dévouement inconnue aux hommes ou tomber dans des abîmes d'avilissement qui stupéfient nos préjugés masculins. Comprenez bien d'ailleurs que je parle de femmes exceptionnelles. » Là-dessus, un des convives faisait observer n'avoir jamais rencontré de femme qui ne pût se montrer exceptionnelle en des circonstances touchant à des sentiments profonds. Cette sorte de supériorité dans l'insouciance qu'elle possède sur nous fait des femmes la moitié la plus intéressante de l'humanité, concluait-il. Le général écoutait l'interrupteur avec gravité et, faisant un signe courtois d'assentiment, « Si, si, en certaines circonstances, précisément. Elles peuvent faire parfois un mal infini et de façon parfaitement inattendue. Comment imaginer que la fille d'un royaliste ruiné, qui ne devait la vie qu'au mépris de ses ennemis, eut le pouvoir de déchaîner mort et dévastation sur deux provinces florissantes et de causer des inquiétudes sérieuses au chef de la Révolution, à l'heure même de son triomphe? Il se tut pour laisser agir sur nous la surprise de telles paroles. « Mort et dévastation !» murmura un des convives avec étonnement. « Quelle horreur !» Le vieux général lança un regard sur son hôte avant de reprendre. « Oui, la guerre, si vous voulez, avec toutes ses calamités. » Mais le moyen qui lui permit de mettre à feu et à sang notre frontière méridionale me parut à moi, qui l'ai vu et lui ai parlé, plus monstrueux encore. Ce fait particulier a laissé dans mon esprit une stupeur et un effroi que l'expérience ultérieure de plus de 50 années de vie n'a pu en rien amoindrir. Il jetait les yeux autour de lui, comme pour s'assurer de notre attention, et sur un nouveau ton, « Je suis, comme vous le savez, républicain et fils de libérateur. » Mon incomparable mère, Dieu et son âme, était française et fille d'un ardent républicain. Dès l'enfance, j'ai combattu pour la liberté. J'ai toujours cru à l'égalité des hommes, et quant à leur fraternité, c'est chose encore plus certaine à mes yeux. Voyez l'animosité féroce qu'ils déploient dans leur discorde, et dites-moi si vous connaissez querelles plus terribles et plus atroces que les querelles de frères. » La parfaite ingénuité de ces paroles sans cynisme réprimait les sourires qu'eût pu provoquer une telle définition de la fraternité humaine. L'accent du général trahissait la mélancolie propre à un homme profondément humain, auquel le devoir, la conviction et la nécessité avaient imposé un rôle dans des scènes d'impitoyable violence. Le vieillard avait assisté à maintes luttes fratricides. Certes, on ne saurait douter de leur fraternité. Tous les hommes sont frères, et comme tels, savent trop de choses sur leur compte réciproque. Mais, et ici les yeux noirs avaient une lueur de gaieté sous la chevelure d'argent du patriarche, si nous sommes tous frères, toutes les femmes ne sont pas nos sœurs. On entendit un des plus jeunes auditeurs exprimer sa satisfaction de ce fait. Et le général poursuivait avec une conviction ardente, « Elles sont si différentes de nous. » L'histoire du roi qui prit une mendiante pour partager son trône est peut-être fort jolie pour ce que nous savons des hommes et de l'amour. Mais qu'une jeune fille, fameuse pour sa beauté hautaine, et peu de temps auparavant, admirée entre toutes, dans les bals du palais du vice-roi, ait pris par la main un goisseau, un vulgaire paysan, cela paraît intolérable à notre sentiment des femmes et de leur amour à elles. C'est de la folie. Et la chose arriva pourtant. Il faut dire que dans ce cas, c'est d'une folie de haine et non d'amour qu'il s'agissait. Après avoir, dans son désir d'équité chevaleresque, invoqué cette excuse, le général resta un instant silencieux. « Je passais presque tous les jours, reprit-il, devant la maison où se tramait cette abomination. Comment la chose advint, nul ne peut le savoir. Le désespoir de la jeune fille devait être extrême, et Gaspard Ruiz était un homme docile. Il avait été soldat obéissant. Sa force était comme une énorme pierre posée sur le sol et prête à être lancée à droite ou à gauche par la main qui la ramasse. Il est évident qu'il dut raconter son histoire aux gens qui lui donnaient un abri si nécessaire. Sa blessure n'était pas dangereuse, mais sa vie ne tenait qu'à un fil. Le vieux royaliste, perdu dans sa folie ricanante, ne pouvait rien faire. Ce sont les deux femmes qui disposèrent pour le blessé une cachette derrière la maison, dans une cabane du verger. Ce réduit, une abondance d'eau claire tant que la fièvre le brûlait, et quelques paroles de pitié, c'est tout ce qu'elles pouvaient donner. Elles partagèrent sans doute avec lui ce qu'elles avaient de nourriture. Ce ne pouvait être que bien peu de choses, une poignée de maïs rôti, peut-être un plat de haricots ou un morceau de poisson avec quelques figues. C'est à une telle misère qu'était réduite cette famille orgueilleuse et naguère florissante. Chapitre 7. L'hypothèse du général Santiarra était fondée. Telle était bien la nature du secours que Gaspard Ruiz, fils de paysan, avait reçu de la famille royaliste dont la fille avait ouvert la porte d'un misérable refuge à son extrême détresse. Sa sombre résolution en imposa à la folie du père et à l'ahurissement tremblant de la mère. Elle demanda au blessé étranger « Qui vous a mis dans cet état ?»« Les soldats, signora, » répondit Gaspard Ruiz d'une voix faible. « Les patriotes ?»« Si. »« Pour quelle raison ?»« Comme déserteur, » haleta-t-il, en s'appuyant contre le mur, sous le regard scrutateur des yeux noirs. « On m'a laissé pour mort là-bas. » Elle le conduisit à travers la maison, vers une petite hutte de terre et de roseaux, perdue dans l'herbe haute du verger abandonné. Il se laissa tomber dans un coin sur un tas de feuilles de maïs, avec un profond soupir. « Personne ne viendra vous chercher ici, fit-elle en abaissant les yeux sur lui. Personne ne passe par ici. Nous aussi, on nous a laissés pour morts. Il s'agitait fiévreusement sur le tas de paille poussiéreuse, et la douleur de son cou le faisait gémir et délirer. « Je montrerai un jour à Esteban que je suis encore vivant, grommelait-il. » Il acceptait les soins en silence, et des jours de douleur passèrent. Les apparitions dans la hutte de la fière royaliste lui apportaient un délicieux réconfort et se confondaient avec des rêves délirants d'anges descendus auprès de son grabat. Gaspard Ruiz était instruit des mystères de la religion et avait même appris du prêtre de son village un peu de lecture et d'écriture. Il attendait la jeune fille avec impatience et la voyait avec un regret poignant sortir de l'ombre de la hutte pour passer dans le clair soleil. Il s'aperçut qu'il pouvait, de son lit de douleur, évoquer, en fermant les yeux, son visage avec une netteté parfaite. Et cette faculté nouvelle charma les longues heures solitaires de sa convalescence. Plus tard, quand il commença à recouvrer ses forces, il se traînait au soir jusqu'à la maison et s'asseyait sur le seuil de la porte du jardin. Dans l'une des pièces, le père dément marchait de long en large et marmonnait entre ses dents avec de brefs et brusques éclats de rire. Dans le vestibule, la mère, assise sur un tabouret, soupirait et gémissait. La fille, vêtue d'une grossière étoffe râpée, son visage pâle et hagard, à demi caché sous une misérable mantille, s'appuyait au linteau de la porte. Les coudes de genoux et la tête dans les mains, Gaspard Ruiz causait à mi-voix avec les deux femmes. La commune misère de leur déchéance aurait fait une amère dérision d'une observance trop marquée par elle des différences sociales. Gaspard Ruiz le comprenait dans sa simplicité. Sa captivité chez les royalistes lui permettait de donner aux deux femmes des nouvelles de leurs connaissances. Il les décrivait, et quand il contait l'histoire de la bataille où il avait été repris, les deux royalistes se lamentaient sur ce coup porté à leur cause et sur la ruine de leurs espoirs secrets. Lui ne se passionnait pour aucun des partis, mais il éprouvait une adoration sans bornes pour la jeune fille. Dans son désir de se montrer digne de sa condescendance, il se targuait un peu de sa vigueur physique. Il n'avait rien d'autre à vanter en lui. Cette qualité le faisait traiter avec autant de déférence par ses camarades, au champ ou au combat, qu'un galon de sergent, expliquait-il. « J'en aurais toujours trouvé autant que j'aurais voulu pour me suivre, signorita. On aurait dû me nommer officier, puisque je sais lire et écrire. » Derrière lui, la vieille dame poussait, de temps en temps, un douloureux soupir. Le père grommelait des paroles insensées en arpentant la salle, et Gaspard Ruiz levait parfois les yeux sur la fille et les vieillards. Il la regardait avec curiosité parce qu'elle était vivante et aussi avec ce sentiment de familiarité et de terreur qui s'attache dans les églises à la contemplation des statues puissantes et inertes de saints dont on invoque la protection dans les périls et les difficultés. Cette difficulté à lui était très grande. Il ne pouvait rester indéfiniment caché dans un verger. Il savait bien, d'ailleurs, qu'il n'aurait pu se risquer plus d'une demi-journée dans une direction quelconque sans se faire arrêter par une des patrouilles de cavalerie qui battait la campagne et conduire dans l'un des camps où était réunie l'armée patriote destinée à la libération du pays. Il serait reconnu comme Gaspard Ruiz, déserteur, et sans doute fusillé pour de bon cette fois. L'innocent Gaspard Ruiz n'avait plus de place dans le monde, et à cette pensée, son âme simple s'abandonnait à une tristesse et à un ressentiment sombre comme la nuit. On avait fait de lui un soldat par force. Il voulait bien être soldat. Et il avait été bon soldat comme il avait été bon fils, à cause de sa docilité et de sa force. Mais maintenant, il ne pouvait pas user de l'une plus que de l'autre. On l'avait arraché à ses parents, et il ne pouvait plus être soldat, bon soldat en tout cas. Personne ne voudrait écouter ses explications. De quelle injustice il était victime, de quelle injustice! Et dans un murmure douloureux, il ressassait pour la 20e fois l'histoire de la double capture. Puis, levant les yeux sur la silencieuse fille appuyée à la porte, « Si, signorita, disait-il, avec un profond soupir, l'injustice a ôté pour moi, comme pour tout le monde, toute utilité à ce pauvre souffle de ma poitrine, et je n'en voudrais pas à celui qui me le ravira. » Un soir qu'il exhalait ainsi la plainte de son âme blessée, elle condescendit à dire que si elle eût été homme, elle n'eût pas tenu pour indigne d'être vécue une vie qui comportait une possibilité de vengeance. Elle paraissait se parler à elle-même. Sa voix était basse. Il buvait sur murmure doux et rêveur avec une impression de délice particulière, de quelque chose qui réchauffait son cœur comme une gorgée de vin généreux. « Vous avez raison, signorita, » dit-il en levant lentement les yeux vers son visage. « Il y a Esteban qui doit apprendre que je ne suis pas mort. » Les marmonnements du fou avaient cessé depuis longtemps. La mère gémissante s'était retirée dans une des pièces vides. Tout était immobile dans la maison, et au dehors, sous la clarté de la lune qui mettait un éclat de jour dans le verger sauvage, plein d'ombres épaisses, Gaspar Ruiz vit s'abaisser sur lui les yeux noirs de Doña Emilia. « Ah, le sergent !» murmura-t-elle avec dédain. « Il m'a donné un coup de sabre !» protesta-t-il, effaré par le mépris qui semblait se refléter sur le pâle visage. Elle l'écrasa du regard. Si forte était sa volonté de se faire comprendre, qu'elle éveilla en lui l'intelligence de choses inexprimées. « Qu'attendiez-vous donc d'autre de moi ? » s'écria-t-il, comme un homme poussé tout à coup au désespoir. « Ai-je le pouvoir de faire plus ? Suis-je un général, avec une armée derrière moi, misérable pécheur que je suis, d'encourir votre mépris pour m'achever ? »